Wikipédia, La Roche-Bion, pays, drapeau de la France, France, région Île-de-France, département Val d'Oise, arrondissement Pontoise, canton Magny-en-Vexin, code INCI 95523, code postal 95780, maire, mandat en cours Alain Quenneville, 2001-2008, intercommunalité communauté de communes Vexin, Val de Seine, coordonnées. Géographique montrer la localisation sur une carte interactive 49°04.60 Nord, 1°37.60 et 49083.3, 1633.3, altitude moyenne 18 mètres, minimale 13 mètres, maximale 143 mètres, superficie 461 hectares égale à 4,61 km, population 100, double compte 550 habitants. 1999. Densité 119 habitants km. Gentil-Aiguenais est, carte de localisation de La Roche-Bion. La Roche-Bion est une commune française située dans le département du Val-d'Oise et la région Île-de-France, aux confins de la Normandie. Les habitants sont appelés Aiguenais et Aiguenaises. Située en contrebas des falaises du plateau du Vexin sur la rive droite d'un méandre de la Seine, le village est réputé pour son château, propriété des La Roche-Foucault, dominé par un donjon médiéval. Le lieu, classé parmi les plus beaux villages de France, est devenu au XIXe siècle, un centre de villégiature et a vu défiler de nombreuses célébrités des arts et des lettres. Géographie modifiée. Description modifiée. La commune de La Roche-Bion est située dans le sud-ouest du Val-d'Oise, aux confins de l'Île-de-France et de la Normandie, à la jonction des trois départements du Val-d'Oise, des Yvelines et de l'Eure. Elle se trouve à 66 km environ au nord-ouest de Paris, et à 40 km à l'ouest de Pontoise. Le village est situé dans le creux d'un méandre de la Seine, sur la rive droite du fleuve, au pied d'une falaise crieuse et escarpée, qui délimite le rebord du plateau du Vexin français. La Roche-Bion est le village le plus occidental du département du Val-d'Oise, et la Seine à l'ouest de la commune, est le point le plus bas du département à 13 mètres d'altitude, côte moyenne. Les communes limitrophes sont à Menucourt au nord, Chérance au nord-est, Autil à l'est, Moisson au sud-est, Frenos et Gomecourt au sud-ouest, ces trois dernières communes appartenant aux Yvelines, et Gasmy, Eure, à l'ouest. Le territoire communal comprend trois parties nettement délimitées par le relief. Le fond de la vallée alluviale de la Seine a une altitude variant de 23 mètres au centre du village à 16 mètres sur la rive du fleuve, c'est là que se trouve la zone habitée, village et château. Le plateau dans la partie nord a une altitude culminant à 123 mètres à l'aplomb du château, se maintenant entre 120 et 130 mètres plus au nord, avec de profondes entailles dues à l'érosion qui a formé des talweg tournées vers l'Epte qui coule au nord-est, cette zone est en grande partie occupée par la forêt régionale de La Roche-Bion. Point virgule. Entre les deux, la falaise, très découpée, occupe une largeur d'environ 250 mètres pour un dénivelé de 80 à 100 mètres, elle se prolonge vers l'ouest par une crête étroite entre la vallée de la Seine au sud et celle de l'Epte au nord. L'espace rural comprenant environ pour moitié des bois au nord, le bois de la Roche, forêt communale, et des terres cultivées, essentiellement de la culture céréalière, occupait 431,14 hectares en 1999 soit 93% de la surface communale. Parmi les 7% d'espace urbain, 32,82 hectares, 45,9%, étaient constitués de zones non bâties, des jardins essentiellement, 27,2% d'habitats continu bas, 13,2% d'habitats individuels, 0,4%. De Boves, habitats troglodytes, et 13,7% consacrés aux équipements, essentiellement les parcs de stationnement, et aux transports, surtout la surface occupée par les infrastructures routières. 2. Réseau de communication modifié. Les communications routières sont assurées par deux routes départementales, la route départementale 913, qui relie Véteuil à Gasmy et traverse le centre du village et la route départementale 100, qui relie Véteuil à Bonnières-sur-Seine par le plateau, elle constitue entre Chérance et La Roche-Bion la route des Crêtes. Un service de bus, bus Val d'Oise, ligne 95-11-3 dessert la commune en semaine, et assure des correspondances avec les trains en gare de Mantes-la-Jolie. Un sentier de grande randonnée, le GR2, traverse le village d'est en ouest. Ce sentier qui suit la rive nord de la Seine entre le Havre et Paris continue vers l'est en direction de Véteuil par la crête de la falaise. De ce sentier se détache vers le nord, le GR2 pays de la vallée de l'Epte qui traverse la forêt de La Roche-Bion. Le territoire de la commune ne possède aucune piste cyclable et n'a jamais été traversé par une ligne de chemin de fer. Ces infrastructures terrestres ont un impact très limité en termes de pollution sonore, la commune n'étant pas concernée par le classement des infrastructures vu son faible trafic routier. Moins de 5000 véhicules par jour, 4, 5. Géologie et risque industriel modifié. La géologie de la commune est celle du Vexin français, constitutive du bassin parisien, et caractérisée par sa nature sédimentaire. Le sous-sol comprend plusieurs types de roches superposées. La première est la craie blanche campanienne, la plus ancienne, datant d'environ 80 millions d'années, et d'environ 80 mètres d'épaisseur, qui affleure dans les fonds de vallée. Elle est surmontée par une couche calcaire du Montien, 65 millions d'années, pierre à bâtir vexinoise par excellence, puis par les couches d'argile et de sable de l'Iprésien, dont les argiles du Sparnassien, épaisses de 5 à 15 mètres, leur caractère imperméable, provoque l'apparition de lignes de sources, errant les fonds de vallées marécageuses. Cette couche est surmontée par le sable du Cuisien, de 10 à 30 mètres d'épaisseur. On trouve ensuite l'importante masse calcaire du Lutétien, d'une épaisseur de 20 à 40 mètres, et qui constitue l'assise du plateau du Vexin. Sa présence explique l'existence de phénomènes karstiques. Les couches du Bartonien qui lui succèdent, 40 millions d'années, voient s'alterner le grès et le sable de l'Auversien, puis le calcaire de Saint-Ouen, et enfin les sables du Marinésien, épais de 5 à 30 mètres. Les diverses couches sédimentaires sont entaillées par les vallées de la Seine et de l'Aisne, dont le fond est constitué d'alluvions. Celles visibles à La Roche-Bion sont anciennes, grossières, riches en gravier, et épaisses de plusieurs dizaines de mètres. La commune comprend 3 sites industriels ou de services, 6 mais aucun site n'est recensé sur la base de données du ministère de l'écologie relative aux sites et ceux pollués, ou potentiellement pollués, appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Bazol, 7. Hydrographie et risques naturels modifiés. Le territoire communal est bordé au sud par la Seine sur une longueur d'un peu moins de 3 km. Le fleuve qui était autrefois jalonné de plusieurs îles, a été en partie rectifié et canalisé, l'île des Demoiselles à l'est, et l'île aux Bœufs à l'ouest ont été réunies à la rive droite. La situation géographique du village rend la commune particulièrement vulnérable à des risques naturels élevés, toute la plaine alluviale comprenant le village, est à risque d'inondation consécutif à une queue de la Seine, et le flanc de falaise la dominant, particulièrement friable, est à haut risque de mouvement de terrain. 8. L'eau potable de La Roche-Bion est d'origine souterraine. 9. Elle est de très bonne qualité bactériologique, peu dure, peu fluorée, contenant peu de pesticides mais elle est teneur en nitrate élevée. 10. Climat modifié. La Roche-Bion, comme toute l'île de France, est soumise à un climat océanique dégradé. Cependant, la localisation du village à l'extrémité occidentale de la région le rend davantage marqué par l'influence atlantique que le reste de l'île de France. Située au pied du flanc sud de falaise calcaire, sa localisation constitue un milieu abrité, qui explique la relative clémence du climat par rapport au plateau du Vexin qui le domine. Ce dernier est caractérisé par un climat venteux dû à la relative proximité de la Manche, et aux extrêmes climatiques assez marqués pour la région. À l'automne et en hiver par temps anticyclonique, la vallée de la Seine connaît de fréquents brouillards persistants, et des températures plus faibles que sur le plateau. Par temps perturbé en revanche, la situation abritée du village le protège des vents dominants d'ouest ou de nord et par conséquent du froid. L'orientation plein sud rend l'insolation maximale par rapport au reste du Vexin français. Cette spécificité permet l'existence d'une végétation plus diversifiée et riche en espèces remarquables. 11. Mois JLNV Fév-Mars Avéar Mai Juin Juillet Août 7 9 Décembre Année. Température maximale moyenne, degrés Celsius, 6, 7, 11, 14, 18, 21, 24, 24, 21, 15, 9, 7, 14,8. Température minimale moyenne, degrés Celsius, 1, 1, 3, 6, 9, 12, 14, 14, 11, 8, 4, 2, 7,1. Température moyenne, degrés Celsius, 4, 4, 7, 10, 14, 17, 19, 19, 16, 12, 7, 5, 11,2. Source, climatologie mensuelle, aéroport de Roissy, France, 12. Héraldique modifiée. Armes de La Roche-Bion. Les armes de La Roche-Bion se blasonnent ainsi. D'azur au château donjonné d'une tour crénée de 5 pièces d'argent, maçonnée de sable et ajourée du champ, posée sur un rocher aussi d'argent hissant d'une plaine facée ondée d'azur et d'argent de 4 pièces, accostée en chef de 2 fleurs de lys d'or, sur le tout d'or aux 5 cotices d'azurée à la bordure de gueule. Les armoiries évoquent la falaise et le double château dominant la Seine. L'écusson est aux armes de la famille de La Roche, 12e siècle. Histoire modifiée. Les origines modifiées. Le nom du village provient du latin rup, roche et de l'anthroponyme guido, la roche de Guy. Une ville gallo-romaine existe probablement, vers les 3e et 5e siècles après Jésus-Christ, mais aucune découverte ne l'atteste, même si le plateau du Vexin est occupé dès la préhistoire, et voit un important réseau de villes gallo-romaines s'implanter dans le Vexin français, à Rouge-Geninville en particulier. Au premier temps du christianisme, une légende raconte que Piance, veuve du propriétaire du domaine, et plus ancien personnage connu de l'histoire de La Roche, rencontre saint Nicaise, l'évangélisateur du Vexin, contemporain de saint Denis. Elle fait alors creuser au lieu de la rencontre un sanctuaire, qui serait la nef ouest de l'actuelle chapelle du château. Une petite nécropole mérovingienne mise au jour, atteste de la présence d'une petite communauté humaine durant le Haut Moyen Âge. 13. Mais c'est le traité de Saint-Clair sur Epte conclu en 911, qui place le site de La Roche dans une position stratégique exceptionnelle de frontière face au duché de Normandie, sur la rive droite de l'Epte. Un premier château troglodytique est édifié pour défendre l'île de France, territoire royal, dans le cadre de la fortification de l'Epte. Il est décrit par Suger en ces termes. Au sommet d'un promontoire abrupt, dominant la rive du grand fleuve de Seine, se dresse un château affreux et sans noblesse appelé La Roche-Bion. Invisible à sa surface, il se trouve creusé dans une haute roche. L'habile main du constructeur, aménagée sur le penchant de la montagne, en taillant la roche, une ample demeure pourvue d'ouvertures rares et misérables. 14. Vers 1190, un donjon est édifié relié au château par un escalier souterrain d'une centaine de marches creusées dans la falaise. Il domine les vallées de la Seine et de l'Epte dans une position stratégique exceptionnelle. Au XIIIe siècle est construit le manoir d'en bas, qui fait peu à peu disparaître le château troglodytique, l'ensemble constituant alors, avec le donjon, une remarquable forteresse double. Les Guy de la Roche modifiés. La famille des Guy de la Roche sont les seigneurs du fief du Xe au XVe siècle. Au XIIe siècle, Guy de la Roche est un fidèle vassal du roi Philippe Auguste, qui séjourne au château en 1185, et récompense sa loyauté en lui accordant le droit de péage pour les bateaux naviguant sur la Seine, puis le droit exclusif de chasse partagé avec le roi en la forêt d'Arty. Ce seigneur est présent à la bataille de Bouvines en 1214 aux côtés du roi. Le droit de péage procure d'importants revenus à la famille de la Roche, mais des devoirs lui incombent: garantir la navigabilité du fleuve par l'entretien des berges, le dragage, puis à partir de 1480, l'halage des navires. 15. Durant la guerre de Cent Ans, Guy VI de la Roche, familier du dauphin, épouse Perrette de la Rivière, fille de Bureau de la Rivière, premier chambellan des rois Charles V, qui est mort dans ses bras, 16, et Charles VI. Mais il est tué à Azincourt, le 25 octobre 1415. Sa veuve prend parti pour les Armagnacs, comme ses voisins de Château Gaillard et de X-Goulet. En 1419, Rouen le 13 janvier, puis Vernon le 3 février et Mantes, le 8 février tombe aux mains des Anglais. Un détachement dirigé par Richard de Beauchamp, comte de Warwick, est envoyé devant La Roche, mais est surpris par l'opiniâtre résistance rencontrée, le château se révèle imprenable. Après un siège de 6 mois, Henri V d'Angleterre, qui séjournait Mantes, demande une entrevue à Dame Perrette. Le 20 juin, elle doit capituler, les Anglais menaçant de saper les caves. Elle reçoit la proposition de quitter le château, ou de prêter serment, ce qu'elle refuse. Les chroniqueurs Jean Juvénal des Ursins et Enguerrand de Monstrelet rapportent. Lors, lui dit le sieurois, si elle voulait pour elle et ses enfants qui étaient jeunes, lui prêter serment, il les laisserait, à elle et à ses 10 enfants, ses nobles terres et seigneuries, sinon il aurait sa place et ses biens, mais elle, mue d'un noble courage, et même le perdre tout et s'en aller, dénuée de tout bien et laisser ses enfants que de se mettre avec ses enfants à ses mains des ennemis de ce royaume, et de laisser son souverain seigneur. Ainsi elle en partit et ses enfants dénués de tous ses biens. C'est ainsi que le château est finalement occupé par les Anglais en 1419, Perrette de la Rivière rejoignant alors la cour du roi de Bourges. En 1404, une nouvelle église paroissiale est mise en chantier avec l'autorisation du roi Charles VI, afin de remplacer l'ancienne église, démolie 2 années auparavant et contiguë au château. Les travaux sont interrompus en 1419, avec l'occupation anglaise et seulement achevés, à l'économie, en 1520-17. Le roi d'Angleterre confie la seigneurie à Guy le Bouteiller, qui la conserve jusqu'en 1439. Son fils lui succède jusqu'en 1449, date à laquelle le château est finalement repris par Guy VII de la Roche, fils de Dame Perrette. 18. De la Renaissance au XVIIe siècle modifié. Guy VII de la Roche meurt en 1460 sans postérité mâle, sa fille Marie épouse en seconde noce le chambellan du roi Louis XI, Bertin de Silly, en 1474. Le fief passe alors à la famille de Silly, jusqu'en 1628, période pendant laquelle débute une importante période de prospérité. Le château perd sa fonction défensive, et se transforme en résidence, qui accueille des personnalités célèbres, jusqu'au roi de France François Ier Henri IV, 19. En octobre 1493, Bertin de Silly obtient par lettre patente, grâce à sa proximité de roi Charles VIII, l'établissement de 2 foires annuelles, mi-juin et fin novembre, ainsi que 2 marchés hebdomadaires à La Roche. On y négocie le blé, les porcs, et tous les ustensiles et denrées nécessaires aux besoins locaux. En 1504, un grenier à sel est autorisé par Louis XII. En 1513, le fief des Silly est vaste, il s'étend de Copières et Arty au nord à Relebois au sud, et d'un cours à Gannes à l'est à Lumettes à l'ouest. Le seigneur détient le droit de justice, et perçoit les impôts et revenus. Les bœufs, qui constituent des refuges commodes, sont généralement habités par les paysans et leurs animaux, qui procurent la chaleur animale. Leur nom proviendrait d'ailleurs du latin bovi, bovin, ou peut-être de bové, qui signifie creuser en vieux français. Les animaux, par leur urine, favorise l'apparition de salpêtres sur les parois de craie blanche, exploitées en retour par les paysans. Le village constitue au XVe et XVIe siècle un important marché où s'approvisionnent les poudreries d'Île-de-France et de Normandie. En 1628, le domaine entre en la possession de la famille Rohan-Chabot, et enfin de la famille La Rochefoucauld en 1659, par le mariage de Jeanne du Plessis-Lancourt avec François C. de La Rochefoucauld, 1634-1714. Le château reste dans cette famille jusqu'à nos jours, sauf de 1816 à 1829 où il appartient au duc de Rohan. Le 6 août 1693, un effondrement catastrophique d'un pan de falaise détruit plusieurs habitations troglodytiques, il fait 6 victimes, 21. Le 18e siècle modifié. Au 18e siècle, de grands travaux sont entrepris au château, et dans le village par le duc Alexandre de La Rochefoucauld, 1690-1762, sixième fils de François-Louis de La Rochefoucauld, et de Madeleine Le Tellier de Louvois. Ils sont poursuivis ensuite par sa fille, Marie-Louise de La Rochefoucauld, 1716-1797, duchesse d'Anville. Le vieux manoir de La Roche-Guyon, d'origine médiévale, ne pouvait plus convenir au duc et à sa mère, fille de Louvois, habituée aux faces de la cour. Le château est doté en 1733 d'une entrée monumentale baroque percée dans son rempart. Elle donne sur un grand escalier donnant sur la salle des gardes et aux pièces de réception. En 1739, la cour d'honneur est entourée de communs, qui remplacent les anciennes bâtisses médiévales. Mais la cour basse conservait encore son apparence médiévale, il est donc décidé de la réaménager également. Le duc fait appel à l'architecte Louis Villard, qui édifie des écuries à l'est de 1740 à 1745, très similaires à celles de Chantilly par leur style ou leur dimension. La porte centrale est surmontée d'un cheval cabré sculpté par Jamet. Une grande grille d'entrée est installée, couronnée de la couronne ducale, et des armes des La Rochefoucauld. Deux pavillons neufs sont ensuite ajoutés au château, le pavillon Villard, ou pavillon Fernand, sur l'emplacement d'une ancienne tour ronde à l'est et le pavillon d'Anville, bâti en L sur une cour, à l'ouest. En 1741, un petit observatoire est créé sur la terrasse occidentale. Le village voit ses rues pavées, puis un système d'adduction d'eau sous pression, est créé en 1742, l'eau est captée à Chérance, sur le plateau du Vexin, puis acheminée par un aqueduc de 3,2 km enjambant la Charrière des Bois à un réservoir creusé dans la falaise, au-dessus des communs du château. Il alimente ensuite les cuisines et appartements, et est accessible aux habitants alimentant également le potager et la nouvelle fontaine du village, sculptée par Jamet. Jusqu'alors, les villageois puisaient directement l'eau de la Seine, 22. Une fois ces travaux effectués, le duc se concentre sur la voirie, la route de Gasmier est percée de 1744 à 1762, ainsi que la rue de la Sangle qui la relie à la vieille charrière. Les routes sont bordées d'arbres, noyers et ormes, tandis que les rives du fleuve sont plantées de saultilleuls et peupliers. La duchesse d'Anville fait ensuite aménager une promenade dans l'île aux bœufs, à l'ouest du village. À partir de 1769, un parc paysager est aménagé à l'ouest, et planté de cèdres du Liban, puis un vaste parc d'une quinzaine d'hectares est dessiné, comprenant une belle futaie d'essence noble, une glacière, travaux conçus par la duchesse afin également de donner du travail aux villageois en ces périodes de disette. Au milieu du XVIIIe siècle, le duché comprend les paroisses de La Roche, Gommecourt, Clachalouse, Bénecourt, Limetz, Vils, Amenucourt, Roconval, Beauregard, Chérance, Copière, Montreuil-sur-Ette, Autil, Champnesle, Vétheuil, Tincourt, Saint-Martin-la-Garenne, Sandrancourt, Guerne, Moisson, Releboise, Méricourt, Frenos et Bonnières, 23. Le salon de la duchesse est très fréquenté par de grands esprits du siècle des Lumières, comme Turgot, qui y séjournait 7 mois en 1776 après sa disgrâce, Condorcet, en 1785 et 1791, l'agronome anglais Arthur Young, le peintre Hubert Robert qui a un moment un atelier au château. Ou encore d'Alembert, les Choiseul, les Rohan, 24. De la Révolution à 1900 modifié. À la suite de la convocation des états généraux par le roi, le 21 janvier 1789, Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, fils de la duchesse d'Anville, est nommé député par la noblesse de la ville de Paris, il est un des 47 nobles, qui se réunissent au tiers état, le 25 juin 1789. Sont également élus députés au bailliage de Chaumont maître Jean-Jacques Feugère, avocat au Parlement, ainsi que les sieurs André François et Nicolas-Alexandre Chandelier, maçon, pour la paroisse de La Roche-Guyon, composée de 229 feux. Pendant la Révolution française, le village prit le nom de La Roche-sur-Seine, et devient le 15 janvier 1790 chef-lieu d'un canton éphémère de 12 communes jusqu'en 1801. Louis-Alexandre de La Rochefoucauld votait la constitution civile du clergé, mais il est nommé président du conseil départemental de Paris, le 1er octobre 1791, et doit faire face aux émeutes suscitées par les Girondins. Il s'enfuit après l'internement du roi Louis XVI, et de sa famille à la tour du Temple, mais arrêté à Gisors le 4 septembre, il connaît un destin tragique étant massacré par la populace sous les yeux de son épouse, et de la duchesse, sa mère. La veille, Charles de Chabot, petit-fils de la duchesse d'Anville, avait été égorgé dans la prison de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Le 2 octobre 1793, le Conseil général de Seine-et-Oise ordonne la destruction du donjon, afin d'éviter qu'il ne tombe aux mains des contre-révolutionnaires. Le donjon est arasé d'un tiers, pour ne plus mesurer que 20 mètres de nos jours, mais le travail n'est pas terminé, les démolisseurs s'étant semble-t-il vite lassés de cette besogne. Les pierres tombées constituent alors des matériaux bon marché, et servent à édifier d'autres bâtiments dans le village, chose courante à cette époque, la pierre étant rare et chère, 25. Avec la Révolution, La Roche-Bion connaît une importante mutation. Au XIXe siècle, le château évolue peu dans son ensemble, en revanche le village se transforme, d'un important centre de négoce, avec son marché hebdomadaire au porc et au blé, il devient progressivement un lieu de villégiature. Les maisons occupées par les administrations ducales deviennent des résidences de vacances pour bourgeois parisiens. En 1812, des travaux sont entrepris dans l'église, agrandissement des chapelles nord et consolidation du clocher avec installation d'une nouvelle cloche. Plusieurs éboulements désastreux se déroulent pendant le siècle. Le 3 janvier 1810, un pan de falaise s'effondre sur des caves, et une maison tuant un enfant. D'autres éboulements ont lieu en 1835 et 1894. En 1832, le village est victime de la grande épidémie de choléra, en 3 semaines, 32 habitants en succombent. Le soir du 12 décembre 1840, la flottille commandée par le prince de Joinville ramène les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène fait halte à La Roche. En 1841, le dernier loup est tué et pendu, 26. Au XIXe siècle, le port de La Roche-Bion constitue le débouché fluvial de deux activités industrielles du Vexin français, la carrière de pierre de taille calcaire de Chérance, et les laminoires de Bray et l'accent circonflexe, qui, actionnés par l'ET, produisent des feuilles de zinc qui sont stockées à La Roche dans un entrepôt à proximité du port. Mais le chemin de fer construit dans la vallée de l'Ette est plus rapide et pratique et le port fluvial est rapidement délaissé, 27. En 1819, Lamartine passa la semaine sainte à La Roche-Bion, il y écrit une de ses méditations poétiques. En 1821 puis en 1835, Victor Hugo séjourne au village, d'abord en tant qu'invité au château du cardinal de Rohan, qu'il avait rencontré 2 ans auparavant au séminaire de Saint-Sulpice, puis 14 ans plus tard à l'auberge, 28. En 1850, le comte Georges, 1821-1861, fils cadet du duc François XIV, 1794-1874, obtient de son père qu'il abandonne un petit temple et une maison de garde afin d'accueillir des enfants convalescents des hôpitaux de Paris. Puis, sous la forme de mende, il faut louer les maisons environnantes. En 1854, le pavillon, baptisé plus tard de La Rochefoucauld, est édifié. Le comte Georges décède en 1861, et est inhumé dans la chapelle de l'Hospice, il lègue les bâtiments en eue propriété à la communauté des Sœurs de Saint-Vincent de Paul, ou à défaut, à l'assistance publique de Paris, c'est cette dernière qui en hérite. Dès lors, 111 enfants sont accueillis et soignés dans elle. Et le pot, réparti dans cette salle est surveillé par 10 sœurs. En 1890, un bâtiment supplémentaire est édifié grâce à un de Monsieur Fortin, en faveur des enfants pauvres des écoles congréganistes de Paris. La direction était assurée par le directeur de l'hôpital Trousseau à Paris, 29. Après la guerre de 1870, La Roche ne compte plus qu'environ 600 habitants, alors qu'il en possédait plus de 1000 à la veille de la Révolution. Le centre du village est néanmoins voué au commerce, et demeure très actif le jour du marché en particulier. On y trouve un cabaret, une pharmacie, un boulanger, un ferblantier, un boucher, un charcutier et un maréchal ferrant près de la mairie. Un bureau de poste existe depuis 1826, en annexe de Bonnières. La Roche compte moins de 12 auberges, parmi les plus importants, la Maison Rouge, le Donjon, l'Hôtel de France, l'Hôtel du Pont, l'Hôtel de la Poste. Les pauvres logent dans les boves, tandis que les fermes des vignerons, se situent pour la plupart sur les charrières. Les coteaux sont couverts de vignes, dont beaucoup possèdent quelques arpents. Le vignoble est pourtant peu lucratif, car situé sur un terrain peu favorable, tout en demandant en revanche beaucoup de travail. Le vin est pour l'essentiel destiné à la consommation locale. On accède au village P. Par le pont suspendu sur la Seine, ou en empruntant la Patache sur la rive droite, qui met près de 3 heures à parcourir la vingtaine de kilomètres, avec de fréquents arrêts. 30. Un natif de La Roche-Bion, Auguste Gerbois, ouvre au Batignolles à Paris, un café qui devient célèbre, il accueille dans son établissement le groupe des Batignolles, les peintres impressionnistes. On y trouve autour d'Edouard Manet, Edgar Degas, Alfred Sisley et leurs amis. Vers 1865, Camille Pissarro peint la promenade à Anne à La Roche-Bion, et une autre toile au centre du village vers 1867, puis en 1880, il exécute une pointe sèche intitulée Château de La Roche-Bion. Claude Monet qui loge à Vétheuil puis à Giverny, fréquente régulièrement le village, il y peint la scène entre Vétheuil, et La Roche-Bion et le château de La Roche-Bion en 1881. Durant l'été 1885, c'est au tour d'Auguste Renoir de séjourner au village, à l'étage de l'actuel café tabac. Il le représente dans Paysage à la Roche-Guyon, avant de revenir plus brièvement au village l'année suivante. Il reçoit également Paul Cézanne en juin 1885, qui entreprend une toile qu'il n'achève pas, 31, de 1900 à 1940 modifiée. Oublié par le chemin de fer, ayant perdu quasiment toute activité fluviale, le village connaît un important déclin économique qui, en contrepartie, contribue à préserver son site de l'urbanisation, et à en affirmer la vocation résidentielle et touristique. Néanmoins, les péniches qui ne circulent alors pas de nuit, continuent à y faire halter les mariniers, du Nord et de Belgique en particulier, et restent nombreux. En 1910, le village est lui aussi victime des inondations qui touchent la région, on circule alors en barque dans les rues noyées sous 2 mètres d'eau, 32. Deux ponts successifs enjambent la Seine, large à cet endroit de 170 mètres, le premier construit en 1840, fonctionne jusqu'en 1914. De 1914 à 1934, un bac relié à une poulie glissant sur un câble, permet aux voitures de traverser le fleuve, les piétons quant à eux le traversent en barque. Grâce à la ténacité des maires de l'époque, Louis Guy puis le docteur Marcel Petit-Clercq à partir de 1929, le second pont est mis en chantier en octobre 1932, et inauguré le 7 juillet 1935. Il s'agit d'un pont en béton à arche unique, le plus long d'Europe à sa construction. Mais victime du second conflit mondial, il est dynamité à l'aide de 400 kg de chédis par le génie français, le 9 juin 1940 causant d'importants dégâts au village, dont la population n'avait pas été prévenue. 1400 carreaux sont brisés au château, 800 à l'hôpital, tous les vitraux de l'église sont détruits, et les habitations sont pour beaucoup rendues inhabitables. Le pont n'a jamais été remplacé depuis, 33. La Seconde Guerre mondiale modifiée. Aucun fait majeur ne trouble le village hormis les habituelles réquisitions ennemies, jusqu'à ce que les Allemands installent un poste de DCA au château, le 17 mars 1943. Le château de la Roche-Guyon est occupé à partir de février 1944, par l'état-major du général-feldmaréchal Erwin Rommel, qui le choisit comme siège de son quartier général, et il retrouve ainsi provisoirement sa vocation militaire. Le village est alors occupé par plus de 1500 soldats allemands pour un total de 543 habitants, plusieurs maisons sont réquisitionnées, dont la propriété l'amiral, le Beauversant, qui abrite le système de transmission radio, ou encore la maison Lich, actuelle maison des enfants, transformée en foyer du soldat et en bureau. Des boves sont creusées au pied de la falaise et abritent des munitions. Séparées par d'épais murs de craie, elles sont de plus protégées par des portes blindées, des pare-éclats en béton sont de plus disposés dans les cours du château. Le maréchal Rommel s'installe au pavillon d'Anville, il choisit comme cabinet de travail le grand salon, prolongé par sa terrasse plantée de roses. La famille de la Rochefoucauld vit alors à l'étage supérieur. Selon les témoignages habitants, Rommel n'est pas un nazi, aucun drapeau à croix gammée n'apparaît dans le village, et seul le salut militaire à court, pas le salut hitlérien. Dès le début de 1944, Rommel sait la défaite nazie inévitable. Au cours d'une rencontre secrète avec Karl-Heinrich von Stultnagel, commandant en chef de l'armée allemande en France, les deux hommes s'accordent sur la nécessité de renverser le régime nazi, et de mettre fin à la guerre. Mais leur position sur les moyens divergent, Rommel craint une guerre civile dans le cas de l'assassinat d'Adolf Hitler. Durant les semaines qui suivent, de nombreuses rencontres secrètes se déroulent au château, presque chaque jour arrivaient des personnalités du Reich pour s'exprimer librement, dans l'oasis de l'état-major de Rommel, loin des griffes de la Gestapo 34. Parti en permission près du LM, le 4 juin 1944, en Bavière, Rommel revient précipitamment à la Roche-Guyon à la nouvelle du débarquement allié en Normandie. Il rencontre Hitler près de Soissons, le 17 juin et souhaite le faire venir à la Roche dans le but de le faire arrêter, mais le dictateur préfère retourner en Allemagne. Le 17 juillet, de retour d'une tournée d'inspection du front en Normandie, la voiture de Rommel est mitraillée par des avions alliés sur la route de Livarot à Vimoutiers. Le chauffeur est tué sur le coup, et le général gravement blessé. Après 5 jours de coma, il est amené à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye avant d'être transféré à sa demande en Allemagne auprès de sa famille. Le maréchal Hans Günther von Kluge arrive le 19 juillet à La Roche pour le remplacer dans ses fonctions. Lors d'un dîner le 20 juillet au château, von Kluge refuse de se rallier aux idées de von Stultnagel, qui souhaite soutenir la rébellion et capituler. Suite à l'échec de l'attentat contre Hitler le 20 juillet, von Kluge se suicide le 18 août, et Rommel, accusé de haute trahison, reçoit l'ordre de se suicider le 30 octobre 1944, afin de le préserver lui et sa famille d'une arrestation et d'une condamnation à mort. Le 18 août 1944, l'armée allemande évacue le village. La Roche-Guyon subit alors un inutile bombardement allié la soirée du 25 août 1944, les Allemands ayant alors tous déjà quitté les lieux, 64 bombes frappent le village et vident le château. Le bombardement détruit la plus ancienne maison du village datant de 1520, les communs du château sont anéantis, la toiture des écuries s'effondre, et le château lui-même est éventré, mais le village ne déplore aucune victime, les Baudéans, fidèles à leur usage, servis d'abri. 35. De 1945 à nos jours modifiés. Après-guerre, de longues restaurations sont engagées en priorité, le domaine ayant été classé monument historique, le 6 janvier 1943. Les parties les moins atteintes sont mises hors d'eau, puis les travaux se succèdent, la tour carrée en 1946, la couverture de l'escalier d'honneur, et le passage de la chapelle en 1948, une partie des intérieurs de 1948 à 1953, les écuries en 1956. Les communs en 1959-36. La dernière récolte de raisin a lieu vers 1950, le vignoble de la Roche qui couvrait 40 hectares de coteaux en 1900 ayant résisté au phylloxéra, qui décime la vigne francilienne au début du siècle, mais pas à la maladie du cournet, qui détruit les derniers cèpes. Le vin de la Roche est nommé le petit couillotin à cause de son goût caillouteux dû au silex. Des abricotiers remplacent un temps, la vigne mais les coteaux retournent rapidement en friche. Durant les années 1960, des technocrates imaginent la création d'une Brasilia à la française, regroupant ministère et administration, mais le projet restera heureusement sans suite. Le lieu est également le cadre de la bande dessinée Le piège diabolique d'Edgar P. Jacob paru en 1960-1961, le décor étant digne de la légende, comme l'affirme le verrou de l'histoire, le professeur Mortimer. Divers promoteurs ont également rêvé de bétonner les coteaux en y construisant des immeubles avec vue imprenable, ou une marina sur la Seine, mais les municipalités successives ont rejeté tous ces projets, souhaitant préserver le site. 37. La commune de La Roche-Buon est membre fondatrice du parc naturel régional du Vexin français, créé en 1995. La Roche-Buon est le seul village d'Île-de-France à faire partie des plus beaux villages de France. En 2003, un arrêté préfectoral autorise la création de l'établissement public de coopération culturelle du château de La Roche-Buon. 38. Cet établissement public prend la suite de l'association de sauvegarde et d'animation du domaine créée en 1995, pour assurer l'animation culturelle du site. Démographie modifiée. L'absence de desserte de la rive droite de la Seine en ce secteur par le chemin de fer de l'Ouest à partir des années 1840 entraîne dès lors une lente décadence économique et en conséquence, démographique. La forte occupation allemande en 1944, et surtout les destructions importantes consécutives aux bombardements subis par le village, expliquent la chute brutale de population à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Tableau démographique du XXe siècle modifié. Pyramide des âges modifiée. Au 8 mars 1999, La Roche-Buon comptait 550 habitants, dont 299 hommes et 251 femmes. Contrairement à de nombreuses communes rurales, le village ne connaît aucune surreprésentation des retraités, la commune est au contraire particulièrement jeune. 57,9% des hommes, et 43% des femmes, avaient moins de 30 ans en 1999. La part des moins de 15 ans est assez conforme à celle de la région pour les filles, mais avec une nette surreprésentation des garçons, qui n'a pas évolué entre 1990 et 1999. 28,8% des hommes, et 17,5% des femmes à La Roche-Buon, avaient moins de 15 ans en 1999, contre respectivement 19,9% et 17,9% dans la région. La tranche des 45 à 59 ans est sous-représentée. 11,0% des hommes, et 10,0% des femmes contre 19,7% et 18,7% en Île-de-France. La part des personnes âgées est-elle conforme à la moyenne de la région? Pour la tranche des 60 à 74 ans, 9,7% des hommes, et 13,1% des femmes à La Roche-Buon, contre respectivement 10,2% et 11,3% en Île-de-France. Et pour les plus de 75 ans, 3,3% des hommes, et 9,2% des femmes contre respectivement 4,0% et 7,2% en Île-de-France. 41-42. Le logement modifié. La Roche-Buon est très majoritairement composée d'anciennes maisons, le village totalisait 260 logements en 1999, dont 188 résidences principales, en augmentation de 8,7% depuis 1990. L'âge moyen du parc immobilier est beaucoup plus élevé que la tendance régionale. Les constructions anciennes, antérieures à 1949, représentent plus des trois quarts du parc immobilier. En 1999, seulement 7,4% des résidences principales dataient de 1990 ou après contre 9,1% en Île-de-France. A contrario, les constructions antérieures à 1949 représentaient 76,1% du parc contre 33,7% pour la moyenne régionale francilienne. 72,3% des logements étaient des résidences principales, réparties à 73,5% en maisons individuelles et à 26,5% en petits collectifs, soit la proportion inverse de l'Île-de-France dans son ensemble, respectivement 26,9% et 73,1% dans la région, 60,1% des habitants étaient propriétaires de leur logement, contre 28,2% qui n'étaient que locataires, respectivement 44,3% et 51,1% dans la région. 43,44. La Roche-Bion comptait un seul logement HLM, soit 0,5% du parc en 1999, 23,4% dans la région. On peut noter en outre que le nombre de logements vacants était plus élevé en 1999 que dans la région avec 27, soit 10,4% du parc contre 8,1% en Île-de-France, et que 42 habitations, soit 16,2% du parc, étaient des résidences secondaires. Les grands logements sont très majoritaires, la plupart des habitations possèdent 4 pièces et plus, 56,4%, puis 3, 18,6%, et 2 pièces, 18,6%, mais seulement 6,4% ne possèdent qu'un pièce, 45,46. Administration modifiée. La Roche-Bion appartient au canton de Magny-en-Vexin. La commune fait partie de la première circonscription du Val d'Oise, dont le député est, depuis 1993, Philippe Houillon, IMP, également maire de Pontoise depuis 2001. Le conseil municipal est composé du maire, et de 14 conseillers dont 4 sont adjoints au maire, proportionnellement au nombre d'habitants. Service public modifié. La Roche-Bion fait partie de la juridiction d'instance, de grande instance ainsi que de commerce de Pontoise, 47,48. Le bureau de poste de La Roche-Bion a été transformé en 2007 en agence postale gérée par la commune 49 afin de pérenniser sa présence. Intercommunalité modifiée. La commune est membre de la communauté de communes Vexin, Val de Seine créée en 2005, regroupant 8 villages du sud du canton de Magny-en-Vexin, dont le siège se situe à Villers-en-Arty, 50. Budget et fiscalité modifiée. Le budget municipal principal 2006 totalisait 437 000 euros d'investissement et 421 000 euros de fonctionnement, 51. Avec un taux de taxe d'habitation de 9,10% en 2006, la pression fiscale pour les particuliers à La Roche reste modérée, mais est néanmoins plus élevée que dans les communes voisines. Il faut y ajouter 0,88% pour la part intercommunale. Le taux départemental du Val d'Oise était fixé la même année à 5,88% de la valeur locative. À titre de comparaison, ce taux communal était de 5,71% à Villers-en-Arty, 6,40% à Chaussy, ou encore 8,02% à Vétheuil, commune du Vexin français de population relativement équivalente, 52,53. Tendance politique modifiée. Comme dans de nombreuses communes rurales, les électeurs de La Roche-Bion restent conservateurs dans leurs choix politiques. À l'élection présidentielle de 2002, le premier tour a vu arriver largement en tête Jacques Chirac avec 24,4%, suivi de Jean-Marie Le Pen avec 16,4%, Lionel Jospin avec 13,4%, puis François Bayrou avec 8,4% et Alain Madelin avec 8,0%, aucun autre candidat ne dépassant le seuil des 5%. Au second tour, les électeurs ont voté à 83,5% pour Jacques Chirac contre 16,5% pour Jean-Marie Le Pen avec un taux d'abstention de 23,3%, valeur assez proche des tendances nationales, respectivement 82,21% et 17,79%, abstention 20,29%, 54. Au référendum sur le traité constitutionnel pour l'Europe du 29 mai 2005, les Lyonnais ont très largement accepté la constitution européenne, avec 59,24% de oui, contre 40,76% de non, avec un taux d'abstention de 30,87%. France entière, non à 54,67%, oui à 45,33%. Ces chiffres sont supérieurs aux résultats franciliens, oui 53,99%, non 46,01%, mais contraire à la tendance départementale du Val d'Oise, qui a majoritairement rejeté le traité, non à 53,47%, oui à 46,53%, 55. À l'élection présidentielle de 2007, le premier tour a vu se démarquer en tête Nicolas Sarkozy avec 43,80%, suivi par François Bayrou avec 19,71%, Ségolène Royal avec 15,69%, Jean-Marie Le Pen avec 8,03%, enfin Dominique Voynet avec 2,92%, et José Bové avec 2,55%, aucun autre candidat ne dépassant le seuil des 2,5%. Le second tour a vu arriver largement en tête Nicolas Sarkozy avec 67,84%, résultat national. 53,06% contre 32,16% pour Ségolène Royal, national. 46,94%, 56. Liste des maires modifiés. Liste des maires successifs. Période identité parti qualité. Mars 2001, 2008 Alain Quenneville. 1929 Marcel Petit-Clercq. 1929 Louis Guy. 31 janvier 1790 Jean-Baptiste Lecomte. Toutes les données ne sont pas encore connues. Économie modifiée. La Roche-Blon vit pour l'essentiel du commerce et du tourisme, le village possédant un hôtel, les bords de Seine, et plusieurs restaurants ainsi que quelques commerces de proximité. En 1998, date du dernier inventaire officiel de l'INSEE, on y trouvait 3-4 restaurants et cafés, une alimentation générale, une boulangerie, un salon de coiffure, un bureau de tabac et un garage, ce qui représentait une offre supérieure aux communes du département, et de la région de taille équivalente, 57. Le château constitue par ailleurs le 4e site touristique, le plus visité du département du Val-d'Oise avec 49 438 visiteurs en 2004, 58. En 1999, 42,8% des actifs guyanais ayant un emploi travaillaient dans la commune, mais ce chiffre a reculé de 4,5% entre 1990 et 1999. La plupart des habitants travaillent dans les pôles économiques du secteur, généralement Mantes-la-Jolie dans le département voisin des Yvelines, plutôt que ceux du département du Val-d'Oise, conformément à l'aire d'influence économique historique de la vallée de la Seine, 59. Le taux de chômage était très légèrement inférieur à la moyenne française avec 11,8% en 1999, contre 12,9% en France. Le revenu moyen par ménage en 2004 était supérieur à la moyenne nationale avec 21 529 euros par an, moyenne nationale. 15 027 euros par an, 60. Sociologie modifiée. Les cadres et professions intellectuelles sont très légèrement surreprésentés avec un taux de 15,9% en 1999, contre 13,1% en moyenne en France, mais largement sous la moyenne de la région avec 22,8% en Île-de-France. Les professions intermédiaires représentent 34,1% des actifs contre 23,1% en moyenne nationale et 25,6% en moyenne régionale. A contrario, les ouvriers ne représentent que 15,9% des actifs de la commune contre 25,6% en France, mais ce chiffre est proche de la moyenne régionale de 16,5% en Île-de-France. La commune ne comptait par ailleurs aucun agriculteur, 61, 62. 27,6% des Guyanais ont suivi des études supérieures, contre 18,1% en moyenne en France métropolitaine, mais 28,1% en moyenne régionale, 63, 64. La population de la commune est ainsi essentiellement constituée d'employés et de cadres, et reste dans la moyenne sociologique d'une commune de l'aire urbaine de Paris. Patrimoine modifié. La Roche-Blon possède 5 monuments historiques classés ou inscrits, et son territoire constitue un site classé, une partie des vallées de la Seine et de l'Aisne, hormis la zone bâtie du village, site inscrit, 65, 66. Patrimoine architectural modifié. Le château de la Roche-Blon est un ensemble de constructions composites adossées à la falaise rocheuse, dont la construction s'est étalée du XIIe siècle au XVIIIe siècle. Il présente néanmoins essentiellement l'apparence que lui a donnée le duc François-Alexandre Frédéric de la Rochefoucauld-Liancourt, qui transforma entièrement la propriété entre 1745 et 1748. Le donjon en forme d'amande a été édifié au XIIe siècle. Sa partie défensive était pleinement tournée vers le plateau du Vexin et la vallée de l'Aisne, faisant alors frontière avec la Normandie voisine, aucun assaillant n'étant à craindre du côté de la Seine vu l'escarpement de la falaise. D'une hauteur initiale de 38 mètres, il fut réduit d'un tiers de sa hauteur par la duchesse d'Erville pendant la Révolution. Il mesure près de 12 mètres de diamètre à l'extérieur, et seulement 6 mètres à l'intérieur. Le donjon est relié au château de la Roche-Blon en contrebas par un escalier souterrain de 250 marches creusées dans la falaise calcaire vers 1190, qui constitue son unique accès. Ce souterrain menait primitivement au château troglodytique, mais l'accès a été condamné à la destruction de ce dernier et forme maintenant un coude vers le château moderne. Les casemates furent creusées derrière le château durant la Seconde Guerre mondiale. Le général allemand Erwin Rommel y installa quelque temps son quartier général après le débarquement de Normandie, ce qui valut au village d'être bombardé par l'aviation alliée. Le potager du château de la Roche-Blon, reconstitué d'une surface de 3 hectares environ, a rouvert ses portes au public le 5 juin 2004. La mairie, inaugurée le 8 mai 1847, est un exemple peu courant de marché couvert. En effet, la halle en pierre du marché est surmontée par le bâtiment de la mairie. L'église Saint-Sanson fut édifiée à son emplacement actuel au XVe siècle après la destruction d'un précédent édifice, probablement situé dans la cour du château. Elle est constituée d'une nef élevée de 5 travées dépourvues de transepts, et terminée par un chevet polygonal, les bas-côtés sont recouverts de voûtes triangulaires à 3 branches d'ogives rayonnant d'une clé centrale. Le bâtiment est dissymétrique, possédant des arcs boutants du côté sud, mais s'appuyant directement à la falaise du côté nord. Le portail est dépourvu de tympan, et la tour carrée du clocher ne possède aucun ornement, étant simplement ajourée à hauteur du beffroi d'une baie unique entière point sur chaque face. L'édifice abrite le tombeau de François de Silly, premier duc de la Roche-Blon et grand louvetier de France, mort au siège de La Rochelle en 1628 et inhumé sur ses terres, 67. Le grenier à sel, ou hôtel de la Gabelle, est un édifice du XVIIIe siècle. Il abrite actuellement le syndicat d'initiative. La fontaine monumentale fut élevée en 1742 par l'architecte Louis Villard. Sculptée par Jamet, elle était surmontée d'un écu, aux armes des La Rochefoucauld, qui donna son nom à la place. Elle porte sur sa face occidentale une plaque en marbre avec un texte gravé en latin. Aquamen per summa colium quatuor fera beam milibu varii canali buductam publia utilitati adixi Alexander Durup Fickel du Hanum Xlii, cura labori ingenio Ludovici Villar architecti, cette eau amenée par le sommet des collines, d'une distance de près de 4000 par différents canaux, fut consacrée à l'utilité publique par Alexandre Duc de La Rochefoucauld, l'an 1742. Sous la direction et par les soins, et le talent de Louis Villard, architecte, 68. Les boves, au groupe de Gasny, sont caractéristiques des villages troglodytiques. Ces caves creusées dans la falaise servaient à abriter les réserves de vin. Assez hautées de forme carrée, d'une surface de 80 à 100 mètres environ, elles sont généralement fermées par des portails et servent de nos jours de garage. Les charrières sont des rues en pentrade menant de la ville basse à la crête de la falaise. La route des crêtes domine la vallée de la Seine et offre des points de vue dominants sur la vallée et la boucle de Moisson. Patrimoine naturel modifié. La forêt régionale de la Roche-Gland, 310 hectares, gérée par l'OMF, se trouve sur le plateau calcaire au nord de la commune. L'arboretum de la Roche est inséré au milieu de la forêt régionale de la Roche-Gland. Il s'étend sur 12 hectares et constitue une représentation géographique originale de la région Île-de-France. Chaque département est représenté par un massif d'arbres caractéristiques, des chênes rouvres pour la Seine-et-Marne, des érables pour l'Essonne, des charmes pour le Val-de-Marne, des frênes pour le Val-d'Oise, des merisiers pour la Seine-Saint-Denis, des tilleuls pour les Hauts-de-Seine, des hêtres pour les Yvelines et des platanes. Au centre, pour Paris. Les cours d'eau sont figurés par des bandes de pelouse. Les falaises crayeuses exposées plein sud hébergent un flore particulière, comprenant notamment des espèces thermophiles et héliophiles. Le site Natura 2000 coteaux et boucles de la Seine, 69 englobe une partie du territoire de la commune de La Roche-Gland. La création dans ce site d'une réserve naturelle de 286 hectares, 70, dont la gestion devrait être confiée au parc naturel régional du Vexin français, est projetée mais soulève l'opposition d'une partie de la population, 71. La Roche-Gland, commune appartenant au parc naturel régional du Vexin français, a interdit la culture de plantes OGM sur son territoire, 72. Personnalité liée à la commune modifiée. François-Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt, 1747-1827, est né à La Roche-Gland. Louis-François-Auguste de Rohan-Chabot, 1787-1833, arrière-petit-fils de la duchesse d'Anville, ordonné prêtre à La Roche-Gland en 1822, revendit le château à son cousin François XIII de La Rochefoucauld en 1829. Erwin Rommel, 1891-1944, général allemand, commandant le groupe d'armée B, et responsable du mur de l'Atlantique, établit son quartier général au château de La Roche-Gland en février 1944. Edgar Pierre Jacob, 1904-1987, collaborateur d'Hergé puis auteur de bandes dessinées, il s'est inspiré du site pour le piège diabolique de la série de bandes dessinées Black et Mortimer. Joseph Kosma, 1905-1969. Compositeur hongrois qui vint à Paris en 1933, et fit partie des Amis de Jacques Prévert. Travaillant pour la chanson et le cinéma, il se fit naturaliser français, s'installa à La Roche-Gland durant les années 1950 et y finit sa vie. Culture modifiée. Festivités et événements modifiés. Le château de La Roche-Gland constitue le cadre de la plupart des animations du village. Tout au long de l'année, de nombreuses festivités sont proposées à tous, expositions, conférences littéraires, pièces de théâtre, concerts dans le cadre du festival Jazz au fil de l'Oise, etc. 73. Chaque année depuis 1993, le premier week-end de mai, est par ailleurs organisé dans la cour basse du château, une fête des plantes intitulée Entre campagne et jardin, qui rassemble divers stands de pépiniéristes et d'artistes. Littérature modifiée. Au XIXe siècle, un des propriétaires et habitants du château de La Roche-Gland, le duc et cardinal Louis-François de Rohan-Chabot, y a invité en séjour le poète, écrivain, historien, et homme politique Alphonse de Lamartine, qui y a écrit une de ses plus admirables méditations poétiques, La Semaine Sainte à La Roche-Gland. L'auteur des bandes dessinées Black et Mortimer Edgar Jacob, y a situé l'action de son album, Le Piège Diabolique et l'imagine relié à Paris par une sorte d'erreur quelque temps avant 2050. Peinture modifiée. Au XVIIIe siècle, le coteau de La Roche-Gland et son château troglodytique ont été peints en tant que paysages de peinture pittoresque par le peintre Hubert Robert. Au XIXe siècle, Claude Monet, qui a résidé non loin à Vétheuil puis à Giverny, a également peint des paysages de La Roche-Gland et de ses falaises. Au XXe siècle, Georges Braque représente le village en 1909 durant sa période dite du cubisme analytique. Cinéma modifié. Plusieurs films ont été tournés à La Roche-Gland. On peut citer 74. 1964, Fantôme d'André Hunebelle. 1968, Berru et ses dames de Guy Lefranc d'après la série de romans policiers San Antonio de Frédéric Dard. 1998, Les Visiteurs 2 de Jean-Marie Poiré. 2004, Eddie, leur jour le plus long de Richard Dahl, coproduction de plusieurs sociétés de télévision dont BBC et France 2, dont certaines scènes ont été tournées dans le château, 75. Enseignement modifié. La Roche-Bion possède un groupe scolaire le Grand Saul, un rue des Fraîches Femmes, comprenant une école maternelle, et une école primaire qui accueille, outre les enfants du village, ceux des communes d'Amenucourt, Chérance et Autil. La commune relève de l'Académie de Versailles. Les écoles du village sont gérées par l'inspection générale de l'inspection départementale de l'éducation nationale de Cergy, immeuble Le Président, chaussée Jules César, 95 525 Cergy-Pontoise-Cedex. La moitié occidentale de la circonscription du Vexin, fait partie du bassin d'éducation et de formation de Cergy, 76. La commune est sectorisée sur le collège, Rosa Bonheur de Bréhel, accent circonflexe, 1, rue de la Sablonnière, située à 7 km au nord, 77 et le lycée général Galilée à Cergy, situé à environ 40 km à l'est, 78.